France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, émission spéciale Barbara, 20 ans après la disparition de cette femme devenue légende. Comme en témoigne quantité d'expositions, de livres et de spectacles pour l'évoquer, je serai en compagnie de son neveu Bernard Serre qui apportera son éclairage familial et aussi de Roland Romanelli qui reviendra sur 20 ans de musique et de chansons dans l'intimité de l'artiste. Et puis en fin d'émission, Serge Elaïc évoquera les principaux arrangeurs de Barbara. On les retrouve dans un instant, juste le temps de nous dégourdir les jambes avec une petite polka. Merci pour les applaudissements. C'était Johann Strausper dans la polka des Hélènes, dirigée par Riccardo Muti au cours du concert de Nouvel An. D'ailleurs, c'est Riccardo Muti, cette année encore, l'excellent Riccardo Muti, justement, qui dirigera le Nouvel An viennois. Et j'en profite pour signaler à tous nos amateurs de musique viennoise, ils sont nombreux, que l'émission du 23 décembre sera un spécial musique viennoise avec Alain Duhaut, qui vient de publier un très joli petit livre sur la famille Strauss.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. 20 ans exactement après la disparition de Barbara, c'était le 24 novembre 1997. Et depuis, je le dis, elle n'a cessé de grandir dans la légende. Nous allons en reparler avec Roland Romanelli, qui était déjà venu dans cette émission, qui évoquera son travail avec Barbara. Mais je reçois également son neveu Bernard Serf. Et puisque nous sommes sur France Musique, eh bien c'est tout naturel de commencer par une cantate.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Note qu'on ferait facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mille ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mille ré, si sol do fa. Si mille ré, si sol do fa. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la. Avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. 6 milliards et 6 soldes d'enfants. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. 6 milliards et 6 soldes d'enfants.
Bonjour Bernard Cerf.
Bonjour Benoît Duterte.
Merci d'être avec nous pour évoquer Barbara, votre tante, dont je disais la légende ne cesse de grandir. J'ai l'impression, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais vous qui êtes le représentant des ayants droit, qui avez un œil très précis là-dessus, qu'il y a 10 ans, pour les 10 ans de la disparition de Barbara, c'était très très important, mais que là, voilà, elle est entrée dans la très grande légende à côté des Piaf, des Brel, de la chanson française.
C'est vrai que cette année, ça a pris une ampleur considérable. Je suis moi-même surpris de la qualité et du nombre des événements qui se passe en 2017.
Voilà, en particulier la grande exposition.
La grande exposition de Clémentine de Roudil. Hier, j'ai vu un spectacle absolument éblouissant de Jeanne Chéral et Bachar Markhalifé. Il y a 2 représentations aujourd'hui. S'il reste des places, je conseille à vos auditeurs et à tout le monde d'y aller. C'est une merveille.
Comme quoi, d'après vous, on peut reprendre Barbara sans forcément être Barbara.
On peut reprendre Barbara sans être Barbara parce que je crois que les grandes chansons, et mon sentiment est que Barbara a écrit de grandes chansons, appartiennent à tout le monde.
Voilà. Alors, il faut dire, Bernard Cerf, vous avez eu une première vie, si on peut dire, notamment dans la publicité. Et puis, depuis pas mal d'années maintenant, vous vous occupez vraiment de l'héritage, si on peut dire, de Barbara, héritage
en tout cas,
artistique.
J'essaie, oui.
Vous essayez avec beaucoup d'engagement et de passion. Vous rappelez la première impression qu'elle vous a faite, cette tante qui devait être aussi assez impressionnante. On a d'elle aussi l'image d'une femme qui pouvait être dure, qui avait une certaine souffrance qu'elle portait, etc. C'était quoi pour un petit garçon
Écoutez, le premier souvenir que j'ai de Barbara, j'étais enfant, c'était rue Vitruve, et à travers une porte fermée, j'entendais Barbara répéter.
Oui.
Et tout à coup, elle est sortie, et sa voix était très ample, et elle est sortie, elle était très radieuse. Elle répétait avec sa pianiste, Liliane Benelli, celle pour qui a été écrite la petite cantate, puisqu'elle a disparu tragiquement dans un accident de voiture. Ouais. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Je devais avoir 5-6 ans, je ne me souviens plus.
Elle était comment en tant que personne de la famille avec
Elle pouvait être très attentive, très charmante. Barbara, comme elle le disait, elle vigilait. Donc elle protégeait les gens qu'elle aimait.
Ouais.
Ce qui ne l'empêchait pas parfois d'être distante, de ne pas être là quand elle s'absentait elle-même. Mais dès que ça allait pas, on pouvait compter sur Barbara.
Voilà. Il faut dire aussi, vous étiez à l'époque un tout petit garçon, et elle n'était pas encore la célèbre Barbara quand vous l'avez, si j'ose dire, découverte et entendue fredonner toutes ses chansons.
Quand je l'ai découverte, mais à l'époque je ne le savais pas, elle chantait à l'Écluse, c'est-à-dire qu'elle chantait pour 80 personnes chaque soir,
ouais,
qui lui faisait un triomphe, mais ce n'était que 80 personnes. Le succès est venu après. Moi, je me souviens des débuts du succès. J'étais très jeune. C'est quand elle est passée en vedette américaine de Georges Brassens. Ouais. Et en vedette américaine de Georges Brassens, dans un programme où il y avait Enlevé de rideau, Serge Lama. Ensuite, il y avait Brigitte Fontaine. Il y avait Bobby Lapointe, Barbara et Brassens.
Tout ça en première partie.
Étonnant.
Oui. En tout cas, voilà. Est-ce que elle disait parfois dans certaines interviews, alors est-ce que c'était, je ne veux pas dire une pause, mais est-ce qu'elle exagérait un peu, que au fond, le succès était une souffrance? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a vécu aussi comme une souffrance? Ou ça a été au contraire l'épanouissement que tout artiste attend quand il commence à être reconnu?
Écoutez, je pense qu'elle l'a ardemment et très longtemps désiré. Et quand c'est arrivé comme une chose extrêmement forte.
Ouais.
Et que ça l'a un peu désarçonné.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle pensait, elle ne voyait sans doute pas tous les à côté du métier, les journalistes, les questions. Et elle a eu un moment effectivement, où elle a été un peu perdue.
Voilà.
Mais évidemment, elle était très heureuse de cela. Elle l'avait tellement espéré.
Bien sûr. Et puis alors, dernier point, avant de réécouter une autre chanson, je disais, oui, c'est une femme qui pouvait aussi être dure et qui portait aussi beaucoup de souffrance, mais vous insistez toujours volontiers sur le fait que c'était aussi une femme extrêmement joyeuse.
C'était une femme joyeuse, farceuse, tout son entourage peut en témoigner. Je crois que Jean-Claude Brialy a dit qu'il n'avait jamais autant ri qu'avec elle et Edith Piaf. Et vraiment.
Et pourtant, elle n'a pas fait beaucoup de chansons comiques.
On pourrait faire un CD.
On pourrait faire un CD.
Mais Barbara, en plus, avait beaucoup d'autodérision sur elle-même.
Ouais.
Elle ne se prenait pas du tout pour Barbara.
Ah oui, c'est ça.
Et elle était capable de rire d'elle-même, de son physique, Et ça la rendait très sympathique, très proche.
Et ce côté-là, d'ailleurs, elle en parle dans cette interview de Rendez-vous à 5 heures avec Pierre d'Ivoire, le 4 avril 1962.
Oui, vous avez un rire clair, sympathique, vous avez un rire comme ça très présent, et pourtant on a l'impression, enfin on s'est fait peut-être une fausse image de Barbara. Barbara, on la voit toujours arriver comme ça en noir, un personnage un tout petit peu mystérieux et un petit peu sombre, quelque chose d'un peu dramatique, avec un humour c'est vrai, mais un humour un peu noir, non?
Oui, vous alliez dire méchant. Hein,
un peu caustique.
C'est une forme
peut-être.
De tendresse, l'humour c'est une défense, c'est une pudeur. Vous me dites que je ris, bien sûr, vous avez l'air surpris, bien sûr, moi j'aime vivre.
Alors à votre avis, qu'est Barbara comme compositeur? C'est un compositeur tendre?
J'en sais rien, oui, je crois, oui.
Oui.
Vous savez, le mot compositeur, je sais pas si je suis compositeur, je fais des chansons que j'ai envie de chanter, je crois qu'elles me vont bien parce que je les écris comme ça, un peu pour moi.
La dernière année, qu'est-ce que c'est?
C'est une chanson qui n'a pas de titre encore. Et je crois que c'est une chanson d'amour.
Oui, vous voulez vous mettre au piano, la chanter pour nous?
Choix, oui.
Alors nous en avons, nous, la primeur.
Oui.
Merci.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage de nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, car tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque la feuille morte, brûle les feux des bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alangue et je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, car tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape plus.
Une des chansons que j'avais le bonheur d'avoir sur un 45 tours de famille quand j'étais petit garçon. Bernard Cerf, moi aussi, j'ai découvert Barbara voilà, un peu après vous. Et puis il y avait aussi ce disque un peu plus tard de Marianne Bad que,
ah oui,
que j'aimais particulièrement et qui a été important parce que c'était là qu'un certain William Scheller...
Oui, c'est-à-dire que François Vertemer, qui a écrit le disque avec Barbara, connaissait William Scheller.
Voilà.
Il lui a présenté William Scheller qui avait fait une messe pour le mariage d'un de ses amis qui s'appelait Lux Aeterna. Barbara a trouvé ça formidable et elle a dit c'est lui qui fait le disque.
Voilà. Mais ça, c'était quand même sa fibre allemande parce que Göttingen et Marianne Bad, enfin, même si Marianne Bad, c'est plutôt
oui.
La République tchèque, mais enfin, cette fibre d'Europe centrale, c'est quelque chose de très présent chez elle.
Ben oui, parce que Barbara, enfin, la mère de Barbara était russe. Elle était née à Tiraspol. Donc elle avait comme ça, effectivement, une familiarité avec l'Europe centrale.
Qui lui est un peu rendue aussi, parce qu'elle est assez célèbre en Allemagne, il faut dire, à Göttingen en tout cas.
Oui, à Göttingen, c'est sûr qu'elle est célèbre. En Allemagne, je ne sais pas. Elle avait chanté en Russie, qui à l'époque était l'Union soviétique, et ça avait été très important pour elle. Elle avait chanté dans 3-4 villes, dont Riga, Odessa.
Alors, il faut préciser, Bernard Seff, que parce qu'on dit toujours que les chansons de Barbara sont en grande partie autobiographiques, et donc vous êtes en quelque sorte le petit-fils du héros de la chanson la plus célèbre de Barbara, Nantes, il pleut sur Nantes, le père de Barbara, c'est votre grand-père que vous n'avez pas connu.
Que je n'ai pas connu, et je ne sais pas si on peut le qualifier de héros.
anti-héros, disons.
Mais en tout cas, je suis le petit-fils de cet homme-là, puisque je suis le fils de Jean, son premier, qui était mon père et qui était psychiatre.
Voilà. Alors comment est-ce que votre... Parce qu'au fond, il y avait eu cet éloignement du père, mais votre tante, Barbara, est restée proche, sinon, de la famille Serf, et notamment de son frère qui était votre père.
Mais hormis ce père disparu, Barbara était proche de sa famille, et on la voyait assez régulièrement.
Comment s'entendaient le frère et la sœur, justement ?
Bien, bien. Ouais. Barbara avait une espèce de déférence pour son frère qui avait fait des études, et son frère aimait beaucoup Barbara.
Et lui, il la regardait aussi comme
grand artiste. Oui, c'est-à-dire que c'était vraiment deux caractères opposés. Ouais. L'une était artiste, et l'autre était plutôt rationnelle.
Voilà. Alors, on le précise aussi, parce qu'on est justement sur France Musique, Barbara avait une bonne formation classique.
Ah oui, quand mes grands-parents sont arrivés au Vésinet, Barbara a vu une pancarte où il y avait marqué Madeleine Thomas Dussequet, professeur de chant. Ouais. Elle a sonné, et Madeleine Thomas Dussequet était la répétitrice d'un grand professeur de chant d'après-guerre qui s'appelait Gabriel Paulet. Ouais. Ce qui fait qu'elle a passé les examens pour entrer au conservatoire. Elle en a réussi 2 sur 3, ouais. Et elle est devenue auditrice libre au conservatoire. Et elle a côtoyé des gens comme Michel Sénéchal, comme...
Nous écoute peut-être, ben cher Michel. On le salue. Et donc,
elle avait travaillé, par exemple, le récit de la messagère de l'Orfeo de Monteverdi. Elle avait travaillé les Bilitis. Donc, elle a, au départ, une formation très classique.
Et elle a conservé un goût, d'ailleurs, pour cette musique.
Oui, elle avait pensé à un moment à chanter Schumann, mais assez tardivement. Et elle m'avait dit, faut que je le fasse maintenant, parce qu'après, je pourrais plus le faire. Et hélas, elle ne l'a pas fait.
Et par contre, elle a, en tout cas, fait des débuts qui n'ont pas été suivis, mais enfin, dans le genre de l'opérette, de la comédie musicale
de la
des années
légère.
50. La musique légère, avec Albert Villemette et Georges Vamparis, deux des maîtres du genre. Hein.
Oui, c'était en 1960. Je crois que c'était Marcel Merquès qui avait donné son nom à Villemetz. Et elle a été engagée dans une opérette qui s'appelait Jeu de dames, où elle jouait un chevalier. Elle était travestie en garçon. Et comme les chevaliers, souvent, les jeunes garçons sont chantés par des mezzos. Ouais. Le mezzo, le garçon, c'est Barbara.
Alors justement, on va la retrouver dans ce jeu de dames de Villemetz et Vamparis. C'était au Petit Théâtre de Paris. Et là, elle est en duo avec Françoise Rosset, qui, je suppose, donc, est la jeune
voilà.
femme. Tandis
Soprano
que
légère.
Barbara est le jeune homme.
C'est un ancien jeu de bohème. Tirez 3 cartes, s'il vous plaît. Une deuxième, une troisième. Et maintenant, écoutons-les. Les tarots diront qui vous aime et vous apprendront qui vous est.
C'est magnifique et palpitant. Oh, dites-moi ce qui m'attend. C'est magnifique et palpitant. Oh, dites-moi ce qui m'attend.
Suivant la place des figures de chaque carte ici tournée me permettra de deviner comment tournera l'aventure.
Mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Tirez, tirez, chers Zéphirions, tirez, tirez-moi les tarots. Mon Dieu,
qu'elle aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Méchant vous assiège.
C'est Singlerac, oui, je le sais.
Mais un cavalier vous protège.
Pouvez-vous me dire qui c'est?
Il déjoue pour vous les manèges. Il est brun, il porte un toquet.
Qu'il me plaît ce cavalier brun qui vient au moment opportun. Qu'il me plaît ce cavalier brun qui vient au moment opportun.
D'après la place des figures de chaque carte retournée, tout semble bien se dessiner pour que tourne au mieux l'aventure.
Mon Dieu, que j'aime ce jeu qui nous vient de Bohème. Tirez, tirez, chers Zéphirions, tirez, tirez-moi les tarots.
le beau cavalier qui m'aime tentera celui qui m'aime. Oui, le beau cavalier qui vous aime tentera celui qui vous est. Des destins comme ils sont l'emblème, les tarots ne trompent jamais.
Le duo des tarots de Villemettes, c'est Vent Paris par Barbara avec Françoise Rosset. Barbara, qu'on évoque ce matin avec son neveu Bernard Cerf. On sait que Barbara ne laissait pas tellement facilement les autres entrer dans son travail d'artiste.
C'était extrêmement rare.
Mais alors vous, le neveu, est-ce que vous avez eu au moins une fois ou deux ce
deux
privilège?
Fois, deux fois, pas trois, mais deux fois. La première fois, c'était quand même à l'enregistrement de L'Aigle Noir. Et c'était la première fois que j'étais dans un studio, donc un son très très fort. Ouais. Et j'entends quelque chose qui ressemblait assez peu à ce que faisait Barbara auparavant. Et il y avait un peu de monde dans le studio. Et une personne dit, tu sais, c'est un tube. Je renchéris, Françoise Sagan qui était là dit « Ah oui, c'est un tube !» Et Barbara fait « Mais enfin, mais non, mais qu'est-ce que vous me racontez ? J'ai jamais fait de tube de ma vie, c'est un métier de faire des tubes. » Et puis tout à coup, elle nous a regardé, elle dit « Un tube à 40 ans, pourquoi pas, c'est pas mal
!» C'est joli. Et la seconde, c'est La Louve ?
Oui, c'était l'enregistrement de La Louve avec William Scheller comme orchestrateur, mais qui ne dirigeait pas parce qu'il était très timide. Et c'était dans le même studio, je ne sais plus si ce studio existe, qui s'appelle le studio Europa Sonore, et qui était rue de la Gaîté à côté de Babineau.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'on en parlera tout à l'heure aussi avec Roland Romanelli, qui a souvent enregistré là-bas. En tout cas, merci Bernard Cerf pour ces quelques souvenirs qu'on va poursuivre en votre compagnie tout à l'heure. Mais justement, Roland Romanelli, je l'ai rencontré cette semaine pour qu'il revienne avec nous sur quelques-uns de ses souvenirs, en particulier de musicien dans son travail de 20 ans avec Barbara.
Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre, vraiment je ne sais pas, mais pour autant de beauté, merci et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et ses brunes éclatées, et tous ses lilas blancs, et ses groseilles rouges et ses rires d'enfant, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre, vraiment je ne sais pas, mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là, cueillons-les sans rien dire, va, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu, ou celle du malin, qui un jour s'unissant croise nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre, vraiment je ne sais pas, mais pour cet amour-là, merci et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi, merci et chapeau bas.
L'Olympia en 1978. Bonjour Roland
Romanelli. Bonjour Benoît.
Vous avez fait tellement de concerts avec Barbara, j'imagine que vous vous rappelez même pas de cette Olympia de 1978.
Noyer. Je m'en souviens quand même. Oui. Je m'en souviens quand même parce que c'est à cette époque-là que Barbara a vu pour la première fois mon fils. Ça m'a beaucoup marqué puisque c'est là où la chanson Cet enfant-là est né. Donc, et cet Olympia, c'était fabuleux pour moi. Donc, c'est plein de souvenirs qui reviennent. Et je vous remercie d'avoir choisi cette version, en tout cas.
Alors, il faut dire que Chapeau bas, cette chanson qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, elle aimait bien souvent la mettre un peu en début de récital.
En début de récital. Au tout début, quand je l'ai connue, c'était Toi, la chanson Toi.
Oui.
Mais là, c'est vrai que Chapeau bas, ça a été longtemps sa première chanson d'entrée.
Et donc, c'était aussi voilà, l'occasion de retrouver ce mélange de piano et d'accordéon, parce que vous étiez tous les deux seuls.
Nous étions seuls, absolument.
Dans ce grand tour de chant.
Nous avons été pendant des années seuls. Voilà. Mais nous étions très heureux. C'est vrai.
Très heureux. Quand même, je pose la question, parce que le moment des grands concerts et des récitals, j'imagine que c'était un moment de grâce artistique et musicale, c'était aussi des moments de tension, parce que c'est des choses qu'elle vivait très intensément.
Barbara, vous savez, quand on raconte, quand on vit, quand on chante sa vie de femme, tout doit être parfait, tout doit être vraiment sans débordement, tout est dans l'instant, dans l'humeur, ça peut être la colère, ça peut être le rire, parce que Barbara était très comme ça, elle pouvait très bien passer du rire à la colère en une fraction de seconde.
Ça se passait comment l'avant-spectacle dans les loges, par exemple?
Oh là là, dans les loges. Bah, écoutez, ça dépend de quelle époque nous parlons. Parce que, au tout départ, nous étions trois avec Michel Gaudry, son bassiste. Et c'est évident que quand je voyageais avec elle, nous avions la sono dans la Mercedes. Donc, il n'y avait pas de préparation importante, puisqu'il y avait simplement deux haut-parleurs. Et c'était notre chauffeur qui faisait la sono. Donc, c'était quand même très archaïque, mais c'était formidable. Et puis, il n'y avait qu'une poursuite.
Vous arriviez quasiment tout de suite sur scène, quoi.
Oui, on arrivait tout de suite sur scène, puisqu'il n'y avait pas véritablement de répétition, enfin, à part pour régler le son. Mais elle était quand même dès 14h au théâtre, pour jouer à 21h, parce qu'à l'époque, c'était ça. Donc, non, ça se passait très bien. Et puis après, quand les choses se sont un petit peu agrandies.
Les grands récitals.
Voilà, elle a commencé à avoir une équipe importante. Ben, vraiment, l'équipe importante, c'était juste un peu avant, très tard quand même. Ça a été. Après, peut-être cette Olympia, les choses ont commencé à évoluer. Et c'est vrai que bon, elle n'avait rien changé dans ses habitudes. C'est-à-dire qu'il fallait, au lieu d'arriver à 14h, il fallait arriver à 9h du matin au théâtre. Et sinon, ça se passait très très bien. Non, avec tout ce qui peut se passer dans la mise en place d'un spectacle, voilà, si tout va bien, rien ne se passe de dramatique. Sinon, si on commence à avoir des problèmes, là, ça devient.
Et les après-spectacles, c'était des dîners joyeux ou...
Barbara avait l'habitude de faire des dédicaces, donc elle signait pendant des heures. Hein, donc, à la fin des concerts, c'était un peu compliqué, puisque après ses signatures, bon, on ne trouvait plus de restaurant ouvert, donc elle n'aimait pas rester dans les villes où elle avait chanté, donc nous prenions la voiture et nous repartions à la ville suivante. Et c'est ça qui était, et c'est ce que je raconte un peu des fois dans mon spectacle et dans mon livre, c'est que c'est elle qui m'a fait voir les plus beaux levers de soleil, parce que juste après le spectacle, nous prenions la voiture, il n'y avait ni de chambre d'hôtel, ni de voyage en train, nous prenions la voiture jusqu'au prochain concert, et puis voilà, et dans la voiture, ben nous refaisions le concert en détail. on parlait de l'ordre des chansons, ce qu'elle avait raté, ce que j'avais raté, surtout ce que j'avais raté.
C'était le débriefing,
voilà,
comme on dirait aujourd'hui.
Absolument, c'était fantastique.
Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann et Peter Helga et Hans, à Göttingen. Que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes, l'onde grise de Verlaine, eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon
cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Oui, alors Romanelli, moi, je pense d'abord qu'il ne faut pas se priver des grands tubes.
Hein, non, absolument. Barbara,
n'allons pas seulement chercher des raretés, c'est quand même des petits chefs-d'œuvre.
Pour moi, ce ne sont que des tubes, mais bon, ça n'est que personnel.
Et puis, c'était aussi une occasion de rendre hommage à celui qui était, à cette époque, 1964-65, le musicien arrangeur de Barbara, c'est Jos Baselli. Voilà.
Absolument.
Quelqu'un qui a compté beaucoup parce qu'il vous a un peu... passer le relais d'une certaine façon.
Oui, ben non seulement, enfin c'est grâce à lui en tout cas que mon rêve s'est réalisé, puisque mon rêve c'était d'accompagner Barbara.
Oui.
Et j'ai eu la chance, et malheureusement pour lui, la malchance, qu'il avait simplement dit à Barbara, écoute, t'inquiète pas, le 6 jours il m'arrive quoi que ce soit, je mettrai deux remplaçants, comme ça moi tu seras sûr, il y aura Bernard Laroche, qui est un excellent accordéoniste d'ailleurs, qui était l'accordéoniste de Serge Lama, et il avait prononcé mon nom, Roland Romanelli.
Ah oui.
Simplement.
Il faut dire, petite parenthèse, Roland Romanelli, oui, que Jos Baselli, de toute façon, il était quand même très occupé. C'était le plus grand chef d'orchestre de cette génération.
C'était lui.
Patachou et tant d'autres.
C'était lui le commandeur, Don Corleone de la place musicale de Paris.
Oui, c'est ça.
Non, là, je plaisante. Mais c'est vrai, surtout qu'à l'époque, moi... En tant que jeune accordoniste, ma seule chance était une fâcherie avec un artiste, soit, parce que pour avoir la place, c'était très très compliqué. On pouvait être remplaçant, voilà, mais jamais titulaire de la place. Ouais. Et donc, ce fameux jour-là où Jos est parti aux États-Unis avec Patachou, il lui a dit, écoute, voilà, t'inquiète pas, je suis obligé de partir. J'ai tout appris à Bernard Laroche, qui connaît tout par cœur, et qui va me remplacer sans problème. Et Barbara, malheureusement... On ne lui donne pas d'or, on ne dicte pas sa conduite. Elle a dit, écoute, c'est Barbara qui me l'a raconté, hein, je n'invente rien. Si tu t'en vas, tu ne remets plus jamais les pieds ici.
Ben, décidément.
Donc c'était déjà... elle n'allait pas par quatre chemins. Et elle lui a dit, Bernard Laroche, c'est peut-être un bon musicien, mais tu te le gardes, je me débrouillerai par mes propres moyens. Et ça a été la chance de ma vie qu'elle soit souvenue de mon nom.
Et vous n'avez jamais entendu?
Jamais, jamais. Donc elle m'a cherché dans tout Paris. Et c'est vrai, ça.
Ça, c'est beau.
Et moi, j'étais dans un magasin, je venais d'arriver à Paris, ça faisait 8 mois que j'étais là.
Vous faisiez des démonstrations chez Beuchère ?
Non, chez Cavagnolo.
C'était
le fabricant de mon accordéon. Et elle s'est renseignée, puis elle est tombée, justement, dans ce magasin, on lui a dit, bah, il est là. Et elle m'a téléphoné, puis moi, bon, j'ai cru que c'était le pape qui m'appelait, parce que quelque part, on faisait que des blagues. On me disait, écoute, Barbara est là, elle va t'appeler, où elle va passer ici. Et le jour où elle m'a appelé, elle m'a donné rendez-vous au Moulin de la Galette. Je l'ai rencontrée, ça a duré 2 minutes. Elle m'a pris la main en me disant, écoutez, vous inquiétez pas, tout va bien. Rendez-vous demain, rue Rémusat, pour répéter. Voyez Marie pour tout ce qui est administratif. Et le lendemain, moi je suis parti avec les disques que Jos avait enregistrés. J'ai tout appris par cœur pendant 24 heures. Hein. Et nous sommes partis en tournée, ça a duré 20 ans.
20 ans, voilà. D'ailleurs, c'est le nom du livre que vous avez consacré à vos souvenirs avec Barbara, Roland Romanelli. On avait eu l'occasion très agréable d'en parler ici même. Oui. Vous êtes arrivé comme accordéoniste, donc, mais aussi tout de suite un peu comme arrangeur, oreille musicale.
Ça a duré pendant... on a fait cette tournée, pratiquement un an de tournée où je remplaçais Jos, vraiment à l'accordéon avec Michel Gaudry.
Oui.
Et puis tout de suite après, un instrument est arrivé qui était l'accordéon électronique. Voilà. Barbara était très intéressée par tout ce qui était nouveauté.
Et vous aussi.
Moi le premier, oui. Et donc je lui ai présenté cet instrument et voilà. Et puis les choses se sont faites, on a changé beaucoup de choses et on a tout changé. Et puis voilà, puis on est devenu complice sur scène et pour les arrangements, pour tout ce qui concernait son tour de chant.
Voilà, l'accordéon électronique, on peut dire d'ailleurs, c'était quasiment un ancêtre du synthétiseur.
Oui, c'était les prémices du synthétiseur. Oui.
C'était à la fin des années 60, ça.
C'était dans les années 68, 69, 68, oui, c'est ça, mais peut-être même 67.
Ça marchait comment?
C'était le même principe. Alors, à part que les sons étaient tout faits, tout fabriqués, je veux dire, donc on avait une pléiade de sonorités. C'était un peu comme un orgue.
Et sauf que vous l'utilisiez avec une technique d'accordéon.
Avec une technique d'accordéon, avec un ampli. Après, bon, j'ai amplifié tout ça avec des Leslie. Enfin, c'était l'époque. Hein. Et le synthétiseur est arrivé en France en 71.
Ouais.
Et c'est là où j'ai commencé véritablement à jouer du piano, puisque j'en jouais pas avant. Hein.
Ouais. Vous aviez fait un peu
tout petit. J'avais 7 ans, mais j'en ai fait 6 mois. Ouais. Quoi. Et puis Barbara étant très intéressée par tout ça, donc voilà. Après j'étais entouré de.
Donc ça, Alexis, ça l'amusait toutes ces techniques.
Plus que ça l'amusait, ça l'intéressait.
Ces sonorités.
Elle voulait plus que ça soit autrement. Ouais. Mais pour moi, c'était très intéressant. Et puis pour elle aussi, ça l'a libérée de plein de choses, parce qu'elle adorait ces sons, voilà, parce qu'elle parlait qu'en images et en couleurs.
Quelqu'un qui a joué aussi un rôle dans vos débuts avec Barbara, si je me trompe, c'est Jean-Jacques Debout.
Oh non, Jean-Jacques, il a joué un rôle enfin important parce que nous sommes partis en tournée avec lui et puis bon, ouais. Tous les deux c'était comme de copains en foire parce qu'il est très drôle, Jean-Jacques.
Ah oui.
Et puis Barbara adore son humour et ah, voilà, ouais. Et nous sommes partis, nous avons fait pas mal de concerts ensemble. Enfin, il était en première partie, nous en seconde, et nous voyagions ensemble. Donc voilà. Non. Puis là, d'ailleurs, il a écrit un livre dans lequel il raconte toutes nos péripéties.
Voilà, mais ça a donné au moins une chanson. Ça
une chanson, hop là. Absolument, qui était hop là.
Racontez-nous l'histoire de cette chanson. C'est la première que vous avez composée pour Barbara ?
Non, la première chanson que j'ai composée pour Barbara, c'était À peine. À peine, c'est une chanson d'amour.
On va écouter ensuite.
Voilà, et non, mais hop là, c'est dommage que vous n'ayez pas cet enregistrement qui est de 73, où elle raconte l'histoire, comment elle l'a écrit.
Alors, voilà. C'est un petit peu long l'explication, mais on va en écouter quand même le début, et puis tout de suite après la version studio de la chanson.
Renaud Romanelli et Jean-Jacques Debout m'ont écrit la musique d'une chanson, pas titre, à laquelle j'ai donné un titre qui n'est pas spécialement intellectuel, pas spécialement une chanson pensée. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas une intellectuelle, c'est eux qui ont dit. J'étais une intellectuelle pendant des années. En réalité, je suis une primaire. Je me suis obstinée à le dire parce que c'est vrai. On n'a pas cru, puis maintenant, on connaît bien au bout de 20 ans. J'ai mis 20 ans. Et alors, attendez, pourquoi je vous racontais ça? Voilà, moi, j'ai cette chanson. Et cette chanson, effectivement, je l'ai appelée, pour vous dire que c'était un titre, hop là.
Je vins au monde, je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout dans les gambettes. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née. Hop là. Sur un long corps, une curieuse petite tête, une longue tige, une vraie fleur de pâquerette, le pied cambré, pas besoin d'être prophète pour deviner. Hop là, qu'à l'âge où l'on joue encore à chat perché, sur les tabourets, au bar du chat qui pêche, mes gambettes gainées de soie noire, déjà je me perchais. Hop là, je n'ai pas dansé les rondes enfantines, au bois joli sonnait les matines. À pas de loup, mais déjà sans peur du loup, à 15 ans je trottinais. J'ai pas de tête, mais j'ai des jambes qui me portent, me rapportent. J'étais en bulle, point virgule, je dégaine ma dégaine. Enfant, j'avais l'âme pieuse, et je rêvais d'être un jour. Une petite sœur du bon Dieu, ben je suis petite sœur d'amour. Venez à moi, venez donc mes frères, pourvu qu'on y croit. À chacun sa prière, Dieu m'a donné la foi et le savoir-faire, qu'il soit loué. Hop là, venez à moi, venez, Dieu vous le pardonne. Ce soir c'est Noël, dans le cœur des hommes, quelle est jolie la messe qu'on danse à minuit au creux de son lit. Hop là. Si vous êtes musicien, je sais la messe en ré. Si vous êtes général, je vous ferai le défilé. Si vous êtes poète, je vous réciterai la petite chanson de Verlaine. Si vous aimez les marins, je serai mousse, comme dit la chanson. Je vous ferai ça en douce, venez mes frères. Je ne suis pas cultivée, mais j'ai des connaissances. Rien dans la tête, tout en jambes. Je trottine et mutine, douce, douce, pas farouche, je dégaine ma dégaine. Quel beau métier, je suis petite sœur d'amour, infatigable, je vais de nuit et de jour. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, c'est bien connu. Hop là. Et que m'importe que ce soit le pauvre ou le riche, pour moi les hommes sont égaux, je m'en fiche. Comme c'est écrit, il faut aimer son prochain, j'aime le mien. Hop là. De mon enfance, j'ai gardé l'âme pieuse, bien sûr. Je ne suis pas vraiment religieuse, et chaque jour auprès de vous, mes chers frères, j'égrène mon rosaire. Entrez mes frères, entrez, c'est l'heure où l'on prie. Ensemble nous aurons notre paradis. Ensemble nous monterons au septième ciel.
Ben voilà justement une valse swing digne de Vasely, Murena et consorts là à l'accordéon, c'est très joli.
C'est agréable, c'est très agréable à faire, oui, à jouer.
C'était un peu vos maîtres, hein, enfin vous qui n'étiez pas spécialement fou du répertoire d'accordéon, mais les jazzmen parisiens à la Viseur, à la Murena, c'était
pour moi ça a été c'est ce qui m'a fait aimer l'accordéon.
Oui c'est ça.
C'est, oui. Tony Murena, Gus Viseur, c'est sont mes deux voilà mes deux dieux qui ont fait que après Joss est arrivé. Voilà,
et donc là voilà il y a en tout cas un petit hommage à cet esprit de la valse parisienne, mais mélangé avec vos sonorités d'accordéon électronique.
Déjà il existait, ouais, absolument. Ouais.
Voilà, dans cet enregistrement de Hop là, avec Michel Colombier. On va revenir d'ailleurs tout de suite à Michel Colombier, mais vous me disiez, hors micro, que vous préfériez finalement, globalement, vous, dans les enregistrements de Barbara, les versions live, aux versions studio.
Sauf celle de Michel
Colombier. Celle de Michel Colombier.
Parce que c'est quand même un des rares qui a complètement compris le langage de Barbara. Et Barbara, tant que j'étais là, a toujours adoré ces versions-là. Ouais. Et elle adorait Michel. D'ailleurs, quand il est parti, ça a été dramatique.
Oui, puis il y avait toujours alors une pléiade de musiciens extraordinaires. Il y avait des Michel Portal,
c'est lui quand même qui a donné à toutes ces chansons un son particulier.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, et quand on parle arrangement... Monsieur Michel Colombier.
L'aigle noir, c'est couleur Michel voilà, Colombier. Voilà, mis en couleur par Michel.
La première chanson qui est à peine, c'est Michel Colombier. Vienne, c'est Michel Colombier. Voilà, toute cette pléiade de titres.
Mais en même temps, c'est comme une parenthèse parce que finalement, que ce soit au début ou à la fin de sa carrière, au fond, elle n'était pas nulle part aussi bien que seul sur scène avec un piano et un accordéon.
Je pense que c'est sa vérité, oui.
Oui, c'est ça.
Absolument. Certains artistes, souvent, font des concerts avec un philharmonique.
Oui, oui.
Je ne sais pas si elle a fait l'Olympia avec Michel Colombier parce que c'était Michel Colombier. Oui. Mais je pense que non, elle a tellement besoin de liberté. Elle a tellement besoin... Vous savez, quand vous jouez avec un orchestre, vous avez des contraintes. Parce que, bon, même si vous avez un chef qui connaît bien la chose, bon, pour moi, avec Barbara, pendant 20 ans, ça a été... un regard constant du début du concert jusqu'à la fin. Et quand elle était debout et de dos, je regardais ses veines dans le cou pour savoir quand elle allait chanter ou quand elle allait pas chanter, quand elle allait ouvrir la bouche ou pas ouvrir la bouche. Voilà, c'est pour ça que pendant 2 heures de spectacle, c'était... voilà, nous étions en osmose et en complicité totale, quoi.
C'était comment le travail musical avec Barbara, justement, en dehors du concert lui-même. C'était des journées de...
C'était des journées, des mois, des semaines, des
de
mois, des
quoi,
années.
Vous vous retrouviez dans son studio.
On était chez elle et on cherchait. Elle enregistrait tout ce que nous faisions.
Vous voilà. Refaisiez les vieilles chansons, les versions évoluées.
Les chansons évoluées au fur et à mesure, oui, absolument. Oui. Parce que, bon, à partir du moment où j'ai amené ces instruments, donc c'est là où les choses ont commencé à bouger, parce que bon, pendant un an, les choses étaient restées un peu figées. Et chaque fois qu'il y avait des sons nouveaux, ben, elle disait, bah, écoute, si on reprenait cette chanson et on rajoute ci, on fait ci, on fait là. Et c'est comme ça que les choses évoluaient.
Voilà, tout simplement. Et alors, l'idée d'écrire des chansons pour elle, c'est arrivé tout naturellement
La première chanson que j'ai écrite pour elle, c'est une chanson... C'est
en
une
gros,
lettre,
elle écrivait généralement ses chansons toute seule.
Oui, musique et texte.
Elle était à la recherche de textes et de musique d'autres.
Non, pas spécialement. Simplement, bon, quand nous avons vécu ce que nous avons vécu au départ de ma participation dans cette aventure, un jour, elle m'a remis une lettre voilà, qui parlait de nous. Et elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu la mettes en musique, toi. Et je l'ai mis en musique. D'ailleurs, c'est la seule chanson qui n'est pas éditée.
Ah bon ?
Non. C'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait et c'est de là où est partie notre aventure.
Dont on va reparler dans un instant. Alors, on va écouter la version donc, de À peine avec Michel Colombier encore.
Absolument, hein. Arrangée par Michel Colombier. Voilà. Oui.
Le jour s'est levé, à peine la nuit va s'achever, que
déjà ta main s'est glissée légère, légère. À peine sortie du sommeil, à peine tu t'éveilles, que déjà tu cherches ma main, que déjà tu frôles mes reins. L'aube blafarde par la fenêtre, l'aube blafarde va disparaître. C'est beau, regarde par la fenêtre. C'est beau, regarde le jour paraître. À chaque jour recommencer, à se vouloir, à se gagner, à se perdre, à se déchirer, à se battre, à se crucifier. Passer les vents et les marées, mille fois perdu déchiré, mille fois perdu retrouvé, nous restons là émerveillés. Ton indocile, ta difficile, et puis docile, ta si fragile. Je suis la vague où tu te noies, et je m'enroule au creux de toi. À peine le temps s'est posé, printemps, hiver, automne, été, tu t'en souviens, c'était hier, printemps, automne, été, hiver. À peine tu m'avais entrevue, et déjà tu m'avais reconnue. À peine tu m'avais souri, que déjà je t'avais choisi. Mon indocile, mon difficile, et puis docile, mon si fragile. Tu es la vague où je me noie, tu es ma force, tu es ma loi. Dans la chambre s'est glissée l'ombre, je t'aperçois dans la pénombre. Tu me regardes, tu me guettes, tu n'écoutais pas, je m'arrête. Au loin une porte qui claque, il pleut, j'aime le bruit des flaques. Ailleurs le monde vit, ailleurs, mais nous nous vivons là mon cœur. Et je m'enroule au creux de toi. Et tu t'enroules au creux de moi. Le temps passe vite à s'aimer. À peine l'avons-nous vu passer, que déjà la nuit s'est glissée légère, légère. Ta bouche à mon cou, tu me mords. Il fait nuit noire au dehors. Ta bouche à mon cou, je m'endors. Dans le sommeil, je t'aime encore. À peine je suis endormie, que déjà tu t'endors aussi. Ton corps à mon corps s'est fait lourd. Bonsoir, bonne nuit, mon amour.
Donc, si nous avons bien compris, Roland Romanelli, ce « Mon amour », c'est à vous qu'il s'adresse en vrai. Hein
oui, je dois l'avouer. Quelle belle orchestration.
Alors, merveilleuse orchestration, effectivement. Oui, toujours de Michel Colombier en 1970. Oui. Dans cette chanson, donc, qui marque un épisode que vous avez longtemps tenu secret, le mot est peut-être fort, en tout cas, dont vous n'avez pas parlé pendant des années. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au bout de combien de temps que s'est nouée cette histoire amoureuse entre Barbara et vous?
Entre Barbara et moi, écoutez, c'est le jour de mon anniversaire, le 21 mai 1967, où elle m'a offert un parfum, un habit rouge que je porte depuis.
Ça faisait un an que vous travaillez ensemble.
Un an quand même. Oui. Elle a eu le temps de me juger. J'étais le premier étonné de ce qui s'est passé parce que juste avant, elle m'avait dit, tu sais, il faut jamais dormir avec les gens avec qui tu travailles. Il faut jamais avoir de relation. Et ce jour-là, quand c'est arrivé, ben, j'ai dit, ben, ma petite, tu
comment est-ce qu'on va faire alors?
Voilà, et puis ça a été fantastique. Et puis donc cette chanson là, ça a été le premier texte qu'elle m'a remis, racontant notre histoire et que j'ai mis en musique.
Alors ça, c'est 20 années. Comment ça se passait? Vous avez travaillé ensemble, mais vous viviez réellement ensemble? Vous aviez chacun votre...
les 8 premières années, effectivement, c'est là où elle travaillait le plus, c'est là où elle tournait le plus, c'est là où elle composait le plus, c'est là où les choses se faisaient, quoi. Ouais. Donc, il est évident que nous étions tout le temps ensemble. Et ça a duré pas ça pendant 8 ans. Et puis, pourquoi j'ai jamais voulu dire...
Est-ce qu'elle voulait pas le montrer non plus?
Cette histoire, non, c'était pour nous tellement naturel. Ouais. Vous savez, quand vous travaillez avec les gens, vous vivez avec, vous voyagez avec. Nous étions tous inséparables.
Ouais. Mais vous l'avez tenue dans le silence, cette histoire, pendant longtemps après sa mort.
Oui, parce que je pensais d'abord que ça n'intéressait personne, déjà d'une part. Et d'autre part, comme on n'en avait pas fait d'étalage, je pensais qu'il allait mieux rester discret. Et c'est jusqu'au jour où j'ai rencontré Eric Emmanuel Schmitt. C'est lui qui m'a un peu violé dans cette histoire-là. Parce qu'il m'a dit, écoute, dans ton spectacle, si tu racontes pas le début, je vois pas ce que je peux t'amener parce que bon, mon spectacle existait, mais c'est vrai
que vous avez donné au théâtre Rive-Gauche, rue de la Gaîté, juste à côté de l'endroit où vous enregistriez les chansons
absolument,
avec Barbara d'ailleurs.
Absolument, oui, c'était le studio de la Gaîté d'ailleurs. Voilà. Oui. Ce spectacle qui a duré 9 mois à Paris, qui a très très bien
qui
marché,
s'appelait justement Barbara
et l'homme en habit rouge. Voilà,
le nom du parfum qu'elle vous avait offert.
Donc la boucle était bouclée.
Voilà. Et cette histoire, donc, elle a duré jusqu'à votre fâcherie, qui ressemble un peu à celle de Jos Baselli. C'est-à-dire, c'est un peu, au fond, si t'es pas complètement à moi, tu t'en vas et c'est fini.
Bah, c'est-à-dire que c'est pas exactement ça. Elle a prétexté ce mot malheureux que j'ai dit, parce qu'il fallait bien qu'elle en trouve un pour qu'on puisse se séparer. Mais vous savez, 2 ans après cette séparation, elle me disait, écoute, Roland, faut qu'on se sépare, faut plus qu'on travaille ensemble. J'ai pas envie que tu me vois vieillir, j'ai pas envie que tu me vois malade.
Elle m'avait déjà dit ça.
Elle me le disait 2 ans auparavant. Et puis on a essayé de se séparer, mais on n'a pas réussi. J'ai des témoins, parce que même Vladimir Kosma, où elle venait me rechercher, on était en pleine séance, il dit, elle ne peut pas attendre. Alors il la faisait attendre dans l'accueil. Voilà, on avait du mal à se séparer, puisque je peux comprendre moi aussi, parce que moi aussi, c'est elle qui m'a tout appris quand même. Ouais.
Au moment de l'illipation, vous dites un jour à Gérard Depardieu, à la suite d'une mauvaise répétition, tout ça, on enregistrait
ce disque-là, et puis il ne se passait rien. Et puis bon, moi j'avais vraiment l'impression de voler mon argent. À la maison de disques, parce que rien ne s'avançait pas. Et donc, je lui ai dit, de toute façon, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de la merde. Quand je suis parti. Hein. Et lui, il est allé répéter ça à Barbara. Et le lendemain, quand je suis arrivé, elle m'a dit, voilà, ça a été la catastrophe. Elle m'a dit, mais écoute, tu n'as pas l'habitude d'en faire, toi, de la merde. J'ai dit, tu m'as toujours empêché d'en faire. Tu m'as toujours, et je ne veux surtout pas que tu en fasses, donc je préfère être franc avec toi. Et elle m'a dit, ben, je ne vois pas ce que tu fais là. J'ai dit, ben, alors, casse la tienne, parce qu'on est 2 orgueilleux. J'ai pris ma voiture et je suis parti.
Mais donc c'était une rupture professionnelle, mais qui induisait une rupture amoureuse
totalement.
Aussi.
Totalement. Barbara, c'est entière.
Alors vous êtes allé rechercher vos affaires chez Barbara?
Non, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Elle est restée avec toutes mes affaires, voilà. Et puis, bon, mais pour moi, c'était un cadeau d'adieu, on va dire. Puis 2 ans après, quand elle a voulu renouer nos relations...
Elle vous a téléphoné
sous
un faux prétexte, en faisant comme si elle s'était trompée de numéro.
Non, elle jouait toujours à ce jeu-là. Et puis moi, je n'ai pas été très fair-play. Puis j'étais surtout, disons le mot, un peu con sur les bords. Parce que je l'ai reconnu.
Ça aurait été mieux de la revoir.
Oui, bien sûr. Bon, mais je ne sais pas ce qui serait passé. De toute façon, je pense qu'on n'aurait jamais plus retravaillé ensemble. Ouais. Les choses étaient... Voilà. Moi, je suis resté avec ce souvenir et cette image de Barbara. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire.
Alors, ce qui est quand même assez étonnant, drôle, paradoxal, c'est que dans le spectacle que vous consacrez aujourd'hui à Barbara, c'est votre compagne
absolument.
Actuelle.
Rêve pareil, absolument.
Qui rend hommage, elle aussi, à votre Barbara.
Elle prend le relais de l'œuvre de Barbara. Elle ne remplace pas Barbara. Non. Barbara est irremplaçable. Mais par contre, ça me permet de pouvoir rendre à Barbara ce qu'elle m'a tellement donné. Et c'est-à-dire de continuer à faire vivre ses œuvres, qui sont, pour moi, c'est ma vie.
Alors ça, c'est inattendu, parce que c'est une chanson 1900
oui, que,
de Fraxon.
Oui, que Barbara
elle aimait
a
beaucoup
chanté.
De ce répertoire-là,
elle adorait,
Barbara.
Elle adorait ça, oui. Oui. Et donc, Rebecca l'a chanté, donc, comme Barbara. Donc, j'ai préféré prendre cette version, comme ça au moins.
Voilà, coup de chapeau à Rebecca May.
Les amis de monsieur. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. Vlatipa qui reluque sa servante et qui la reluque en amateur. Il lui murmure, ah ben dites donc ma fille, entre nous, vous êtes fort gentille et votre personne croit nom d'un chien. Au naturel doit être très bien.
Monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit.
Durant de plus en plus s'emballe, à la petite bonne il fait la cour, et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Oh, voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flatté. Dans ta chambre, je monterai sans bruit. Laisse donc ta porte ouverte cette nuit.
Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Paraît que je possède un bon lit. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit.
Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, durant s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, je n'ai jamais vu de si beau lit.
Oh monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahi, tous les amis de monsieur m'ont déjà dit.
Comme Durand a de la galette, et qu'il n'est pas vilain garçon, bah, elle fit pas longtemps la coquette. Sans faire de façon, ici des points pour la censure. Puis il s'écria, je t'assure, je te trouve exquise, on s'est merveilleux. Et que ma femme, tu t'y prends bien mieux.
Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Bah, que je m'y prends mieux que Madame Pardy. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit.
Voilà un répertoire Fraxon chanté par Rebecca May, mais répertoire que Barbara aimait beaucoup.
Barbara aimait, pour les rappels, elle faisait toujours soit cette chanson, oui. Les amis de monsieur, soit J'ai des petits gâteaux.
Elle vendait des petits
gâteaux.
Elle aimait bien Bruant aussi, tout ça.
Oui,
je crois,
absolument. Hein, ça, et ça l'amusait énormément. Je pense que si elle avait osé, elle aurait fait tout un spectacle de chansons coquines et chansons.
Ah oui. Vous l'avez peut-être fait avec Colette Renard, par ailleurs, ça.
Moi, je ne l'avais pas fait avec elle, mais enfin, j'ai accompagné Colette Renard, ça a été la première artiste que j'ai accompagnée. Mais par contre, Rebecca pense faire un spectacle sur toutes ces petites chansons coquines.
Je parlais du côté très exclusif de Barbara, je me rappelle, puisque c'est le moment où vous êtes fâchés et séparés, je me rappelle de Luc Plamondon à propos de Lili Passion, qui disait que c'était un peu accaparé l'œuvre. On peut le dire, parce que par ailleurs, on célèbre suffisamment son talent extraordinaire, mais c'est vrai qu'elle voulait un peu mettre la main sur tout ce qu'il y avait autour d'elle.
Écoutez, à partir du moment où nous ne sommes plus jamais revus, je ne veux pas dire ça parce que je n'étais plus là, mais parce que ça serait
votre
mentir.
Nom a disparu de tout.
C'est-à-dire que oui, elle était certainement très en colère contre notre séparation. Mais bon, je pense que c'est là où les choses ont pris des proportions un petit peu. Elle était un petit peu managée par plein de choses qui faisaient que, tant que nous étions tous seuls, elle s'occupait de rien. À partir du moment où elle a voulu s'occuper de tout, je pense que les choses ont débordé. Et puis, bon, il y a eu des erreurs, des maladresses, et je pense qu'il y a quelques personnes qui ont dû être touchées par ces réactions. Mais bon, c'est fait partie aussi de la vie.
Et de cette personnalité complexe. Mais
on lui pardonne tout à Barbara. C'est pas un problème.
Bon, on a parlé de la personnalité, de son art d'écrire, des textes, des chansons, etc. Mais au bout du compte, il y a quand même le miracle de Barbara, c'est la voix. Comment vous la percevez, vous, là, cette voix très particulière dans la chanson française?
Il y a sa voix, il y a son style, il y a sa façon de chanter, ses intonations qui sont différentes des autres chanteurs.
C'est quelque chose qu'elle a eu presque tout de suite et qu'elle a eu toujours.
C'était en elle, ça.
Oui.
C'était en elle, c'est sa façon à elle d'exister, sa façon d'écrire, de parler. Et le plus grand malheur, c'est quand elle a eu cette corde vocale distendue. C'était en 81, c'est là où elle a commencé malheureusement à avoir des problèmes.
Mais elle a travaillé cette voix, elle est...
Oui, à l'époque, elle avait travaillé sa voix, puisqu'elle faisait un peu de lyrique. Mais sinon, non, Barbara, c'était très instinctif. Ouais. Barbara, tout est à l'instinct. Elle jouait du piano instinctivement, elle est une musicienne d'instinct, elle chante, elle se donne... C'est l'amour à l'état pur qu'elle offre à tous ces gens qui lui rendent bien, je pense.
Bah merci beaucoup Roland Romanelli d'avoir évoqué avec nous et plus précisément quelques-uns de ses souvenirs. On va se quitter avec quelques extraits de Nantes, mais version instrumentale que vous avez enregistrée avec Michel Portal dans le match de notre ami Alexandre Tarot.
Absolument, j'y tenais. Oui, ça, je suis content que vous le mettiez parce que c'est un très bon souvenir.
Ça passait bien entre Portal et Barbara.
Oui, ils se connaissaient pas très bien, mais chaque fois qu'ils se voyaient, c'était éclatant.
Et Alexandre Tarot.
Et Alexandre Tarot, qui est un ange et qui est un musicien hors pair. Non, j'ai cette chance de vivre qu'avec des gens d'exception. Et merci à vous.
Merci à vous, Roland Romanelli.
Merci.
Et j'espère à bientôt.
Merci.
Par Michel Portal et Roland Romanelli. C'était donc pour illustrer cet entretien avec Roland Romanelli. Mais nous sommes toujours en compagnie de Bernard Cerf, le neveu de Barbara. Vous aimez ce disque d'Alexandre Tarot?
Ah oui, c'est une vraie réussite.
Hommage à Barbara, Bernard Cerf.
Et ce, Et cette version de Nantes est tout à fait intéressante. Et on a eu la chance de retrouver, alors ça c'est extraordinaire, le fameux enregistrement du Théâtre des Capucines, le 5 novembre 63, où c'est la première version de Nantes. C'est la première fois que Barbara...
C'était conservé comment ? C'était un disque ?
C'était quelque chose, on ne savait pas où c'était, à qui ça appartenait. Et finalement, ça peut être dans cette intégrale. Barbara avait à peine fini la chanson. D'ailleurs, il y a des couplets différents. Et c'est vraiment peut-être la version la plus émouvante de Nantes que chante Barbara.
Cette version d'origine de Nantes, non pas celle qu'on vient d'entendre, ça, c'est le disque d'hommage d'Alexandre Tarot, mais la version d'origine, on peut maintenant donc la retrouver dans la vraie intégrale, discographique de Barbara qui est sortie.
Il y a une nouvelle intégrale qui vient de sortir. Et il y a vraiment des pépites, oui, dont cet enregistrement de Nantes, dont cet enregistrement des Capucines. Il y a aussi un enregistrement de l'album studio de Lili Passion.
On va écouter tout à l'heure.
Ça aussi, pardon.
Mais donc ce grand coffret,
c'est un livre,
plus qu'un coffret, 22 disques, 22 CD.
Il y a 350 chansons, c'est vraiment une merveille.
Voilà, et ça s'intitule, tout simplement...
Ça s'intitule « Barbara comme un soleil noir ».
Voilà, ça c'est donc un des éléments qui jalonne ce 20e anniversaire. J'imagine, c'est quasiment un travail à temps plein de s'occuper de Barbara aujourd'hui, et Bernard Cerf, avec le nombre de projets, d'autorisations qu'il faut donner pour les reprises. Comment ça se passe ?
Un travail à temps plein, n'allons pas jusque-là, mais c'est vrai que j'ai été plus sollicité cette année que les années précédentes, mais sollicité pour de très beaux projets, par exemple la magnifique exposition dont Clémentine de Roudil est commissaire, qui a lieu à la Philharmonie jusqu'au 28 janvier.
Alors là, cette exposition, on la recommande, bien entendu.
Ah oui, elle est vraiment exceptionnelle, cette exposition.
Voilà. Et vous avez vous-même prêté la famille des pièces
J'ai prêté quelques pièces, j'avais pas beaucoup, mais il y a une iconographie, et surtout, cette exposition permet de voir Barbara sous un jour où elle échappe aux clichés, et c'est vraiment à la fois didactique, c'est joyeux, et c'est très bien fait.
Alors ça, c'est donc à la Philharmonie.
À la Philharmonie.
La grande exposition Barbara qui continue pendant encore...
Jusqu'au 28 janvier.
Voilà, jusqu'au 28 janvier. Et puis, alors, également... l'intégrale des chansons, mais alors non pas en disque, mais en texte, qui est également paru aux éditions L'Archipel.
Absolument.
Et à laquelle vous avez été également associé, Bernard
Cerf. J'ai été associé parce qu'il fallait effectivement, comme c'était une nouvelle intégrale avec des critiques, avec une nouvelle iconographie, il fallait que je supervise un peu cela, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je trouve que le résultat est très satisfaisant.
Voilà. Et en tête de chaque chanson, il y a un peu l'histoire de la chanson, qui l'a écrite, quand elle a été créée.
Voilà, il y a un petit préambule. Voilà,
un petit préambule. Ça, c'est Barbara à Cœur qui bat à cœur battant, l'intégrale des chansons, donc aux éditions L'Archipel. Tiens, on continue avec les nouveautés barbaresques, si j'ose dire, Bernard Cerf. Il y a un joli livre illustré d'Alain Vircondelet et Philippe Lorrain aux éditions du Rocher, qui s'appelle Chez Barbara. Et puis, un grand livre illustré aux éditions Grund, Barbara Similare, un mot de celui que vous avez également préfacé.
Oui, alors celui-là, j'ai le préfacé. C'est un livre de Stéphane Loisy et Baptiste Vignol. Ils ont fait un travail formidable de bénédictin sur pour recontextualiser les chansons. Il y a plein de photos, c'est vraiment un très beau livre.
Voilà, beaucoup donc d'actualité. Et je précise à tous les auditeurs que s'ils tapent sur leur ordinateur Barbara France Musique, ils tombent également sur des tas d'informations sur Barbara qui sont sur notre site de France Musique, avec d'autres émissions d'ailleurs, puisqu'il y aura également un hommage de Martin Péné. Il y a demain Laurent Vallière qui évoquera Barbara et la comédie musicale. Et à ce propos, on va se quitter, Bernard Cerf, avec Lili Passion, cette version extraordinaire que j'ai découverte grâce à vous. Encore un petit mot avant de l'écouter.
Oui, c'est une version extraordinaire. C'était perdu. C'était l'Atlantide de Barbara. Et en fait, les bandes n'étaient pas réellement perdues. Elles étaient mal classées. On les a retrouvées. Et c'est une merveille parce que la voix de Barbara est splendide et qu'on découvre ses chansons sous un autre aspect. C'est formidable.
Avec Richard Daguerre. Avec Richard Galliano aussi.
Avec Gérard Daguerre et Richard Galliano. Avec des cordes et des cuves. C'est vraiment très très beau. C'est un disque exceptionnel.
On s'est trouvés sans se chercher. Nos regards se sont rencontrés et notre vie était changée.
La nuit est bleue comme tes yeux. Je te désire à mourir. Tu me parles en fumant des blondes. Y a-t-il d'autres amants, mon monde, qui soient heureux comme nous deux? La nuit bleue comme tes yeux. tango indigo, blue tango contre ta peau. On est comme deux évadés qui ne croient pas ce qui est arrivé. Après, je sais plus les paroles, mais je vais t'en dire de plus folle. C'est l'histoire d'un assassin blanc qui rencontre une passion. Ça se passe dans une fête foraine où il y a un bandonné aux yeux verts. Non, pas les yeux verts. Alors c'était quoi mes paroles? Pas la peine que tu t'en souviennes. C'est plus beau que la vraie chanson. Cette histoire d'un assassin blanc qui rencontre Lily Passion. Tango, tango, indigo, blue tango contre ta peau. Tango, tango, indigo, blue tango contre ta peau. On est debout sur un volcan incandescent. La terre est une boule de cristal qui tourne au milieu des étoiles. Tout peut sauter en un seul jour, mais laissez-moi ma nuit d'amour. Le monde est à feu et à sang. On s'en fout, c'est pas important. Je t'emmènerai où tu voudras, mais ta loi deviendra ma loi.
Barbara, admirable dans Lily Passion. On peut donc la retrouver dans l'intégrale discographique qui vient de sortir. Merci Bernard Cerf d'avoir
Merci
été
à vous.
Avec nous ce matin pour évoquer le souvenir de Barbara.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et avant de retrouver Serge Laïc, je voudrais vous parler d'une belle rencontre musicale qui aura lieu à Paris la semaine prochaine. Celle qui a imaginé cette soirée, c'est Anja Linder, une harpiste victime d'un accident qui l'a privée de l'usage de ses jambes. Mais elle a décidé avec une volonté farouche de réapprendre la harpe sur un nouvel instrument conçu pour elle. Cette histoire, racontée dans un livre « Les escarpins rouges », a particulièrement frappé Milan Kundera, le grand écrivain qui a exprimé son admiration pour le courage et le talent d'Anja Linder. Et celle-ci, à son tour, a voulu rendre un hommage musical à Kundera, au cours desquels des pages de l'insoutenable légèreté de l'être lues par Patrick Poivre d'Arvor alterneront avec des œuvres jouées par Anja Linder, en compagnie du violoniste Amaury Coeto, le remarquable premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ce sera mardi soir à la Maison de l'Alsace, aux Champs-Élysées, sur réservation. Et tiens, à propos, écoutons la voix de Milan Kundera.
Avant que le droit d'auteur ne devient loi, il a fallu un certain état d'esprit disposé à respecter l'auteur. Cet état d'esprit qui, pendant des siècles, lentement s'est formé, me semble se défaire aujourd'hui. Sinon, on ne pourrait pas accompagner une publicité pour papier hygiénique avec des mesures d'une symphonie de Brahms, ou éditer sous des applaudissements les versions raccourcies des romans de Stendhal. Si l'état d'esprit qui respecte l'auteur existait encore, les gens se demanderaient, Brahms serait-il d'accord? Stendhal ne se fâcherait-il pas? Je pense à Stravinsky, à son effort gigantesque pour garder toute son œuvre dans sa propre interprétation comme un indestructible étalon.
Thank you.
Une petite polka de Stravinsky en écho au texte de Milan Kundera, extrait des Testaments trahis. Et vous retrouverez donc les pages de Kundera avec les œuvres de Chopin, Dvorak, Taillefer et d'autres mardi prochain à 20h30. Attention, il faut impérativement réserver vos places sur le site des éditions Max Milo, M-I-L-O, ou au 01 40 40 03 43. 01 40 40 03 43. Le livre d'Anja Linder est également paru aux éditions Max Milo. Mais c'est maintenant l'heure de la chronique de Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et nous avons décidé de continuer avec Barbara, ou plutôt avec les arrangeurs de Barbara.
Et oui, alors c'est un plaisir d'évoquer avec vous les musiciens qui ont accompagné Barbara. Alors historiquement, c'est en 1955 que Barbara enregistre son premier disque à deux titres avec l'orchestre belge de Jacques C. C'est seulement trois années plus tard, en 1958, qu'elle retourne en studio avec l'ensemble d'Armand Motta, connu par la suite comme chef d'orchestre de Bobino. C'est ensuite l'accordéoniste Freddy Balta qu'on retrouvera aux côtés de la Dame en Noir, tout comme François Robert, le grand arrangeur de Jacques Brel, pour l'une des versions de la chanson « Dis-moi, dis, quand reviendras-tu ?». Puis, à son tour, le légendaire contrebassiste François Rabat servira Barbara, entre autres pour la formidable chanson « Nantes ». Et c'est en 1965 que Barbara demande à l'incontournable accordéoniste Jos Baselli, alors directeur musical de Patachou, de l'accompagner, tant en studio que sur scène. Et avec Barbara, il sera associé à des succès comme Une petite cantate, Göttingen, mais aussi à la chanson Toi, où l'accordéon de Baselli fait merveille.
Tu me fais des nuits et des jours et des nuits d'amour. Toi, je le sais, tu pourrais même m'ensoleiller sous la pluie même. Avant toi, d'autres sont venus que je n'ai jamais reconnus. Pour toi, je ne suis pas la même. Toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime, tu me fais des nuits et des jours et des nuits d'amour. Tu me fais la mer et les lunes. L'âge au clair de la lune, avec ta gueule de Jésus, tu es venu, oh bienvenu, et tu m'as griffé en douceur là, juste à la pointe du cœur, à la pointe du cœur. Tu me fais la nuit, le jour, et le jour et la nuit d'amour. Et dans tes bras, je fais naufrage sans même quitter le rivage. J'ai beau connaître mon affaire du boy scout jusqu'au légionnaire. Devant toi, j'étais vraiment dur le jour où tu m'as dévêtu. Tu m'as faite au premier matin, timide et vierge, vierge et catin. Pour toi, je ne suis plus la même. Toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime, va.
Toi, c'était Barbara en 1965 avec Jos Baselli, qui a donc été sinon le premier très grand chef d'orchestre de la chanteuse.
Tout à fait. Alors, et malheureusement, en 1967, Jos Baselli décide de repartir aux États-Unis parce qu'il veut accompagner à nouveau Patachou qui doit se produire là-bas. Mais Barbara, déçue certes, mais femme de tête, remplace, on l'a entendu tout à l'heure, remplace Jos par le tout jeune accordéoniste Roland Romanelli. Malgré tout, Barbara reconnaîtra plus tard que par son jeu, Jos Baselli lui avait beaucoup apporté. C'est également à cette période qu'intervient, on l'a bien entendu aussi tout à l'heure, le jeune arrangeur Michel Colombier, qui fera aussi des merveilles auprès de Gainsbourg à l'époque, ou de Pierre Henry, puisque c'était la même époque, dans Metz pour un temps présent, avec le fameux Psyché Rock. Colombier arrangera de nombreux albums pour Barbara, comme notamment Le Soleil Noir, Roland Romanelli étant présent là comme accordéoniste, et c'est encore Michel Colombier qui signera l'arrangement du grand succès de Barbara, L'Aigle Noir, en 1970. Il s'en souvenait au micro de Jacques Chancel.
Il s'agissait de trouver l'ambiance qui collait avec cette mélodie, en oubliant totalement la façon qu'avait Barbara de s'accompagner en la chantant. Il fallait coller un peu avec le texte, bien sûr, C'est dicté par le texte, d'une part, par la personnalité de l'interprète, en sachant que Barbara n'est pas une interprète comme Joe Cocker qui ne cherche que le swing. Barbara a des mots à dire et à chanter, surtout. Il faut jamais la couvrir, alors qu'on peut couvrir un chanteur style Joe Cocker ou autre chanteur de blues. Donc ça détermine, si vous voulez, le choix des instruments, puis les chœurs, enfin tout ce qu'il y a dedans.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près de là, endormi. Or soudain, il venait de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour, une nuit, près de là, endormi. Il venait de nulle part, il surgit l'aigle.
Et c'était évidemment l'aigle noir, donc dans l'orchestration originale de Michel Colombier en 1964, Serge et Laïc.
Alors, avant de poursuivre sur les musiciens de Barbara, je vous propose une belle version instrumentale d'une petite cantate par l'orchestre de Paul Mauria. Et habitué sur ses albums à reprendre les succès du moment, c'était un peu la marque de fabrique de Paul à l'époque, Paul m'avait révélé que Barbara était l'une des très rares artistes à l'avoir remercié pour ce type de travail. C'est assez étonnant.
La petite cantate, effectivement, en version, on veut dire, musique légère, assez inattendue. Serge Laïc avec l'orchestre de Paul Mauria en 1965. L'aigle noir, juste avant, j'ai dit 64, puis c'était évidemment 70. Hein. Serge Laïc, donc, qui nous parle des arrangeurs de Barbara.
Alors, dans les années 60 et 70, alors de jeunes arrangeurs en pleine ascension font démonstration de leur talent en arrangeant et accompagnant Barbara, entre autres en 1969, le fameux Jean-Claude Vanier, qui arrangera et dirigera l'album Madame. Roland Romanelli est toujours là avec son accordéon électronique dans tous ses disques. En 1973, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, l'album La Louve avec la chanson Marianne Bad est un disque très particulier, arrangé et orchestré par le jeune William Scheller. Et on peut le dire, effectivement, William Scheller ne voulait pas diriger et c'est Paul Piau qui avait repris la baguette pour diriger les orchestrations de William Scheller. Alors, quant à Jean Musy, très demandé à l'époque, il arrange et dirige l'opus Amour incestueuse avec, entre autres, Printemps, un poème de Paul Éluard, mis en musique par Barbara, arrangé de superbe façon par Jean Musy, qui de surcroît est au piano aux côtés de Barbara.
Il y a sur la plage quelques flaques d'eau. Il y a dans les bois des arbres fous d'oiseaux. La neige fond dans la montagne. Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs que le pâle soleil recule. C'est par un soir d'hiver dans un monde très dur que tu vis ce printemps près de moi. De nuit pour nous, rien de ce qui périt n'a de prise sur moi. Je ne veux pas avoir froid. Notre printemps est un printemps qui a raison. Notre printemps est un printemps qui a raison. Printemps est un printemps qui a raison. Notre printemps est un printemps qui a raison.
Barbara avec Paul Éluard, donc dans ce printemps de 1972, avec les orchestrations de Jean Musy, autre grande figure hein, des arrangeurs français qu'on évoquera dans une prochaine chronique,
oui, j'espère, Serge Laï.
Fin janvier, voilà. Jean Musy. Mais on termine donc cette évocation de Barbara, ses chefs d'orchestre et ses arrangeurs.
Alors, en fin d'année 1985, à l'occasion d'un différend à propos du spectacle Les Passions, là aussi on l'a entendu tout à l'heure par la bouche de Roland Romanelli, Barbara et Roland Romanelli, devenu au fil des ans son directeur musical, eh bien, ils se séparent au terme de près de 20 années de collaboration. C'est alors le pianiste et arrangeur Gérard Daguerre qui le remplace dans ce rôle de directeur musical jusqu'à la disparition de Barbara en 1997. Et tout récemment, en 2017, bien sûr, l'événement pour les fans de Barbara fut l'enregistrement de l'album Depardieu chante Barbara avec Gérard Daguerre au piano, album dont j'extrais Au bois de Saint-Amand.
Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape et tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, puis j'envole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournaient nos rondes folles, puis j'envole, vole, vole, vole. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole. Tiens, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Et un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis parti, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Il y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand.
Barbara avec Gérard Daguerre et bien sûr Gérard Depardieu. Merci Serge Laïc.
C'est moi qui vous remercie comme chaque fois.
De tableau. Bernard Serge, j'imagine que vous avez suivi toutes les reprises de Gérard Depardieu.
Oui, oui, et j'aime particulièrement quand Gérard Depardieu, entre deux chansons, dit des textes de Barbara. C'est tout à fait sidérant parce que cet homme qui est quand même, qui a un côté Falstaff, tout à coup on a l'impression que c'est Barbara.
Voilà, bah merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Merci encore Serge, nous on se retrouvera pour un spécial fête.
Voilà, exactement, un programme festif le 30 décembre.
Beaucoup de musique légère. À bientôt donc. Ainsi s'achève, étonnez-moi, Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique José Bernays, Jean-Paul Lafavergès, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain. Samedi prochain, je serai en compagnie de Jacques Maillot et nous évoquerons notamment bien sûr l'histoire, la grande histoire des chansonniers. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon week-end sur France Musique. J'en profite puisqu'il me reste juste quelques secondes pour vous annoncer également que le samedi suivant, c'est la grande critique de cinéma Daniel Eman qui viendra pour nous parler de chansons. Et elle évoquera celui qui a été son mari, Jean Bertola. Je crois que ce sera aussi une très belle émission donc le 9 décembre prochain. Mais maintenant, vous avez rendez-vous avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.